écouteront au
front. Come on baby now, let me look at you, talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night, trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.
Une chanson de jeune homme aux paroles insignifiantes et fières de l'être. La nuit où on s'est rencontrés, je faisais une virée en ville, etc., etc. Ça s'appelle For You, F-U-H puis You. Hein, ça se prononce comme For You en anglais. Enfin, quand on parle vite. Sauf que le jeune homme en question, vous l'avez sûrement reconnu, a 76 ans à l'heure où je vous parle et est le grand-père de 8 petits enfants. Paul McCartney, c'était bien lui, publie un nouvel album de 14 chansons, Egypt Station, le 6e depuis qu'on a changé de siècle. C'est, pour vous donner une idée, le rythme de Madonna. Alors quand on se met à considérer son gars, faut bien admettre qu'il est unique. Déjà, McCartney a atteint dans la musique populaire mondiale le sommet de la gloire et du prestige il y a bien longtemps, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, au milieu des années 60 alors qu'il avait à peine 22 ans, l'âge où aujourd'hui beaucoup sont encore à faire leurs études. Je dis gloire, prestige, mais en fait il faut aller plus loin. Il y avait une autre dimension, puisque les Beatles ont été, je me rappelle, j'étais enfant, une sorte de mythe vivant. Ils avaient aux yeux de ceux qui les suivaient, et on était nombreux, une existence comme surnaturelle. D'abord on les voyait pas, ou très peu. Je rappelle qu'à partir de la mi-1966, les Beatles ont cessé de donner des concerts. Alors on voyait des photos où ils étaient déguisés, les cheveux longs, barbus, méconnaissables. On apprenait qu'ils préparaient longuement leur disque en studio, c'était mystérieux, qu'ils partaient en Inde rejoindre un gourou. Bref, ils étaient des espèces de prophètes invisibles. Et puis le vent a tourné, ils y croyaient plus eux-mêmes et on s'est mis à chercher d'autres prophètes. Il y a eu Bob Marley et puis il y a même eu des anti-prophètes quand la révolution punk a éclaté. Et Paul McCartney, au début des années 70, est alors devenu un musicien normal, si vous me permettez l'expression. Avec sa femme, pianiste et chanteuse Linda, il a recruté des copains musiciens, c'était Wings. Ils ont sillonné la Grande-Bretagne dans un bus, comme une bande de potes, donnant de petits concerts, presque amateurs, sur de petites scènes. C'est une dimension qu'il faut absolument jamais oublier quand on pense à McCartney, la simplicité absolue et qui n'a, au fond, jamais changé. Paul McCartney, à l'heure où je vous parle, n'a pas de garde du corps, il prend le bus, il prend le train, parfois bondé, hein, comme vous et moi. Il y a d'ailleurs des gens qui s'amusent régulièrement à poster des photos de lui endormi, la bouche ouverte, dans une rame. Il explique ça très simplement, il dit « Quand on vient de la classe ouvrière de Liverpool, on n'a pas la grosse tête. » Alors, dans un reportage télévisé récent, réalisé à Liverpool, où s'est mis en scène le comique anglais James Corden, un animateur de talk show pour CBS aux États-Unis, eh bien, on voit McCartney accompagné en voiture par l'animateur, l'animateur au volant, et qui sillonne les rues de Liverpool, et puis il chante une espèce de karaoké, rejoint par l'animateur, de ses propres chansons. Alors on le voit, il entre dans un salon de coiffure, celui de Penny Lane, il frappe à la porte de la petite maison de briques, toujours là, où il a grandi, enfant, où il avait jamais souhaité revenir, trop de mauvais souvenirs, sa mère malade d'un cancer. Et puis, il y a aussi une dimension étonnante chez lui, qui nous ramène à son nouvel album, Egypt Station, qui est sorti il y a 15 jours, l'esprit de compétition. Et oui, McCartney a beau avoir 76 ans, il veut continuer à faire des tubes. Il a travaillé à son nouvel album avec l'américain Greg Kurstin, c'est un pianiste de jazz formé au conservatoire, hein, tout le contraire de lui, qu'il a rencontré au cours d'une séance avec Lady Gaga. C'était pour les besoins d'une chanson destinée, si j'ai bien compris, à un dessin animé. Et puis, dans cet album, une collaboration, c'est ce que vous venez d'entendre, avec un autre américain, plus jeune, Ryan Tedder, qui a écrit et réalisé des tubes pour Beyoncé et Ed Sheeran. Mais bon, alors je reviendrai tout au long de la semaine sur McCartney, pas seulement son nouvel album que je vous invite à découvrir, parce qu'il y a toujours chez lui cette fraîcheur jaillissante. D'ailleurs, c'est pas toujours joyeux. Il lui arrive, comme à tout à chacun, à tout McCartney qu'il est, d'avoir un terrible coup de cafard, sauf que lui, à ce moment-là, il se met au piano et sort de ses doigts une mélodie qui illumine et transcende sa tristesse, un peu comme la lumière qui traverse les vitraux d'une église. Alors ce soir, McCartney, auquel j'ai consacré il n'y a pas si longtemps toute une série d'émissions, c'est pour ça que je ne me répète pas, sera notre porte d'entrée vers un rock'n'roll simple, mélodieux, toujours actuel, resté proche des joies et des peines de l'enfance. Tout de suite, le retour, toujours bienvenu, d'un excellent groupe qui nous vient de Austin, au Texas, qui est un des plus généreux, fins et variés musicalement, magnifiques sur scène, White Denim. Alors si vous ne les connaissez pas, je vous encourage à explorer leur discographie. White Denim, It Might Get Dark, c'est extrait du tout nouvel album du groupe Performance. I'm real. Cry on my guitar, c'était Miles Kane, une des jeunes voix du rock'n'roll britannique d'aujourd'hui, un rock'n'roll au son très électropop. Dans ce cas, ce titre fait penser à certaines chansons entraînantes du duo Goldfrapp, des chansons qui étaient elles-mêmes dérivées de tubes du début des années 70, de la période du glam rock, les tubes de Gary Glitter ou de T-Rex, qui étaient alors d'ailleurs copieusement méprisés par les amateurs de Led Zeppelin et Pink Floyd, et les puristes en général. Enfin bon, c'est ça la musique musique aujourd'hui, c'est un tiroir qui ouvre sur un autre tiroir, etc. Enfin bon, Miles Kane, tout ça, c'est pas son histoire. Il a 32 ans. Il aime, c'est sûr, le rock britannique du milieu des années 60, classique avec une pointe de soul, et puis aussi les mélodies romantiques un peu désuètes en général, comme son camarade Alex Turner des Arctic Monkeys, avec lequel il a formé un duo à succès, les Last Shadow Puppets, où Turner a pu s'épanouir dans son rôle de crooner. Là, c'était peut-être un peu vexant au début pour Miles Kane d'être surtout connu comme le collaborateur un peu moins connu justement de Alex Turner, surtout au début parce que le groupe qu'il avait formé tout jeune dans la région de Liverpool, The Rakes, n'avait absolument rien donné. Mais ça a bien changé, et dans ce titre qu'on vient d'entendre, extrait du troisième album de Miles Kane, et ça s'appelle en français dans le texte Coup de Grâce, hein, il y avait un album de Willie DeVille qui s'appelait comme ça, eh bien il confirme son succès, bon ça tant mieux pour lui, mais surtout il chante mieux, d'une façon plus émotionnelle, et ça lui réussit. Miles Kane est allé au-delà de ses rêves de gamin, il vit aujourd'hui à Los Angeles, et lui arrive de participer, c'est là que je retombe sur mes pieds très adroitement, à un groupe de reprises des Beatles avec son copain Matt Bellamy du groupe Muse, ainsi que Ilan Rubin, c'est un collaborateur de Trent Reznor de Nine Inch Nails. Un groupe qui s'appelle Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band, le groupe du club des cœurs lassés de Dr. Pepper. Il paraît qu'une fois, je sais pas si c'est vrai, Paul McCartney qui passait par là les a rejoints pour une reprise de Helter Skelter. Alors dans le nouvel album de Miles Kane, il y a une collaboration avec Lana Del Rey, un album d'ailleurs auquel a contribué une autre star du rock anglais, enfin un peu entre rock'n'roll et rap, Jamie T. Tout de suite, un musicien, lui qui est new-yorkais, qui a toujours fait l'unanimité du public mondial, et contre lui, l'unanimité de la critique, a toujours trouvé quelque chose à redire à ce musicien depuis son apparition à la fin des années 80. Alors c'est tout nouveau, sa voix n'est pas facile à reconnaître. Five more days till summer, plus que 5 jours avant l'été, si seulement c'était vrai. Alors c'est sur France Inter, promis, je vais vous dire qui c'est. Mais en attendant, comme disait le regretté George Michael, écoutez sans préjugés. Sunshine can heal my bones. In five more days,
Inter. Mishka Assayas.
Reaching Out for a Friend, c'était signé par un groupe qui n'est plus tout jeune, qui s'appelle The Coral, comme le corail, puisque The Coral s'est formé il y a plus de 20 ans déjà dans un petit port du nord-ouest de l'Angleterre, situé sur la péninsule qui sépare Liverpool du Pays de Galles et qui s'appelle The Wirral. Un groupe formé par deux frères, James et Ian Skelly, respectivement chanteur et batteur. Il se trouve d'ailleurs, coïncidence, qu'ils sont les cousins plus âgés de Miles Kane, qu'on a entendu tout à l'heure. Miles Kane, pour qui James Skelly a été un véritable modèle. Alors les frères Skelly ont eu la chance de suivre très jeune une initiation très éclectique à diverses formes de musique populaire. Ça allait du jazz de John Coltrane à la techno allemande, en passant par le rock psychédélique, hein, qui est un peu comme leur matrice, le rock psychédélique historique, celui du groupe californien Love, comme celui réinventé 20 ans plus tard, qui était plus de leur âge, un psychédélisme régénéré par la house et la trance, celui des Stone Roses. Alors pourquoi tout ça? Eh bien parce que tout simplement, le père des frères Skelly, qui ont donc formé The Coral, gérait un pub où passaient divers DJ animant des soirées, ce qui leur a permis de découvrir plein de musiques différentes qui n'étaient pas toutes de leur âge. Alors au fait, est-ce que vous avez deviné qui chantait avant The Coral? Non, eh bien c'était Lenny Kravitz, dont le titre que j'ai diffusé, Five More Days Till Summer, est extrait de son dernier album, Raise Vibration, très bien accueilli par le public français, qui a gardé d'ailleurs une flamme particulière pour ce musicien new-yorkais que la critique, j'en parlais, a toujours un peu pris de haut. J'en profite pour saluer Olivier Nuc du Figaro, avec lequel j'échange parfois des textos pendant l'émission, et qui m'a envoyé un texto pour dire qu'il avait reconnu Lenny Kravitz. Voilà, félicitations Olivier, je sais pas ce qu'il gagne, mais enfin bon, on verra. Il y avait quelque chose dans cette chanson, en tout cas, qui rappelle beaucoup ces chansons d'ailleurs très mélodieuses et californiennes que Prince a pu composer et chanter, pas toujours pour lui-même d'ailleurs. Je pense en particulier à Manic Monday qu'il avait écrit pour les quatre filles des Bangles et qui est vraiment un de ses chefs-d'œuvre. Tout de suite, un groupe que seuls peuvent connaître ceux qui ont suivi les aventures du rock indépendant du milieu des années 90. La période de la Britpop, oui, mais c'était plus rock que pop, tout en étant très, très mélodieux. Je veux parler d'un trio de la région, donc irlandais, de la région de Belfast, qui s'appelait Ash et qui existe encore. Son chanteur, imaginez, Tim Wheeler, n'avait que 16 ans. Ash reste un des trésors cachés de cette période des années 90, alors comme plein de jeunes groupes de l'époque, ils ont pris pour modèle à leur début les Pixies et puis le courant grunge entraîné par des groupes de Seattle comme Mudhoney, puis un autre peut-être dont vous avez entendu parler qui s'appelait Nirvana. Cela dit, les trois garçons de Ash ont su mêler à cette inspiration une fraîcheur particulière et un sens de la mélodie percutante, franchement exceptionnelle. Et puis ils sont toujours là, plutôt en forme, comme en témoigne cette chanson Annabelle, hein, comme le prénom, extraite de leur dernier album en date, Islands, qui est paru au printemps dernier. Le groupe s'appelle Ash.
Gone. Now the fight is real.
C'est drôle cette impression qu'on peut avoir quand on a écouté plein de musique, que les chansons les plus simples, percutantes et mélodieuses ont toutes été déjà écrites. Eh ben que voilà, que sur ces accords simples, ces rythmes binaires, on a tout appuyé. Eh bien non, il reste toujours quelques petites comptines sans prétention à cueillir au bord des chemins comme d'éphémères fleurs des champs. C'était le cas de cette petite chanson Snowbound, signée par un groupe néo-zélandais qu'on a bien oublié, les Chills, à moins que vous n'ayez été un lecteur des Inrecuptibles vers 1990, au temps lointain où c'était un magazine bimestriel réalisé par des passionnés loin des modes. Un groupe au charme fragile, un peu campagnard, hein, l'air pur et les beaux paysages de Nouvelle-Zélande, qui se baladait entre des styles très différents. Ça allait du Velvet Underground aux Beach Boys, sans oublier d'ailleurs les racines punk qui étaient les siennes, des racines un peu acides. Les Chills ont laissé de très bons souvenirs. Je me rappelle une chanson magique comme un hymne délicat qui s'appelait Heavenly Pop Hit, tube pop céleste, c'était bien trouvé. Et puis, comme beaucoup de groupes de cette période et de cette famille, les Chills ont vite quitté les écrans radars à la faveur des changements de mode, ce qui ne les a pas empêchés de persévérer, même si leur parcours a connu pas mal d'accidents et d'interruptions. Un des moments les plus durs, d'ailleurs, c'était il y a une quinzaine d'années, quand le chanteur et compositeur Martin Phillips s'est fait prendre dans un supermarché pour un vol dérisoire, alors qu'il suivait un traitement anti-drogue et qu'il ne survivait plus que grâce aux aides sociales en Nouvelle-Zélande. Alors on est heureux d'apprendre qu'il a remonté la pente. Et cet album des Chills, qui s'appelle Snowbound, hein, comme la chanson qu'on vient d'entendre, confirme le retour de ce groupe déjà amorcé en 2015 dans un petit écosystème modeste. Enfin voilà, il y a de la place pour tout le monde. Alors tout de suite, un autre retour, celui d'un musicien dont l'envergure est comparable à celle de Paul McCartney, avec lequel il a d'ailleurs étroitement collaboré il y a une trentaine d'années. Je veux parler de qui ? Eh bien de Elvis Costello, qui n'a sans doute jamais atteint, malgré de grands succès mondiaux, le statut populaire d'un McCartney, mais il est l'un des musiciens les plus admirés par ses pairs. Il occupe une place à part dans le cœur de ses admirateurs, dont beaucoup lui sont restés fidèles depuis son apparition à Londres il y a 40 ans déjà, en 1977. Ils l'ont suivi dans toutes ses métamorphoses, dans à peu près tous les genres musicaux, du rock garage à la musique de chambre, en passant par à peu près tout, y compris récemment le hip-hop, dans un album exceptionnel qui est paru il y a 5 ans, que je vous conseille, Wise Up Ghost, enregistré avec les Roots. Elvis Costello revient avec un nouvel album à paraître la semaine prochaine qui s'appelle Look Now, où il est accompagné par les mêmes musiciens qu'en 1978, le clavier Steve Naive et le batteur Pete Thomas, qui s'appelait à l'époque les Attractions, et qui, après le remplacement du bassiste Bruce Thomas, avec qui Costello est très fâché, par le Californien Davey Farrier, sont devenus les Imposters. Alors Costello revient de très loin, on lui a diagnostiqué il y a plusieurs mois un cancer foudroyant, dont il a, selon ses dires, été opéré à temps et qu'il aurait, c'est tout le bien qu'on lui souhaite, définitivement surmonté. En tout cas, il a fait les parties chantées de ses nouveaux titres avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et il est revenu dans cet album à un style jazz soul, feutré et raffiné, qui caractérisait déjà, il y a bien longtemps, une partie de son classique Imperial Bedroom, paru en 1982. Et ce titre, Unwanted Number, est très marqué par sa collaboration avec le légendaire compositeur Burt Bacharach, qui a co-signé certains des nouveaux titres de Elvis Costello. C'est comme toujours aussi sensible que raffiné. Unwanted Number, Elvis Costello and the Imposters.
You should hear the things that they say about me. They're saying she's no better than she needed to be. They don't know that he was kind.
Surprenant que ça puisse paraître, la chanson que vous venez d'entendre est bien de 2018. Elle s'appelle Sleep With Me et je la tire du nouvel album d'un jeune musicien canadien qui s'appelle Michael Rowe, R-A-U-L-T, Michael Rowe, un musicien qui navigue entre Toronto et Montréal. Alors, selon qu'il soit dans une de ces deux villes, c'est Rowe ou Rowe. Montréal, ces derniers temps, parce qu'il n'est pas le seul à le dire, la vie y est moins chère. Alors clairement, Michael Rowe est sous l'influence d'un certain courant de la fin des années 60, une sorte de variété orchestrale qui a reçu l'influence influences du psychédélisme. Ça part des Beatles de Sgt. Pepper, ça passe par les Beach Boys et des groupes moins connus comme The Left Bank qui ont procédé à de drôles de collages avec des instruments classiques. Et puis ça va jusqu'à Electric Light Orchestra dans les années 70. Et puis ça s'est jamais vraiment arrêté au fond, puisque plus de 50 ans après, des musiciens comme le jeune Michael Rowe qu'on vient d'entendre continuent à s'inspirer de tout ce courant. Et puis il y a aussi les jeunes frères californiens des Lemon Twigs dont on parle beaucoup en ce moment. Alors ce qui est intéressant chez ce musicien, c'est qu'il a des racines soul. Son père programmait une émission soul à la radio dans l'Alberta. Et puis Michael Rowe est accompagné dans son parcours par un label new-yorkais Daptone, enfin une sous-marque de Daptone, enfin peu importe. C'est la compagnie qui a lancé la regrettée Sharon Jones et a fourni ses accompagnateurs à Amy Winehouse, donc une compagnie très orientée vers la musique soul. Autre chose, on a appris cet été une triste nouvelle, la mort brutale d'un musicien californien extrêmement doué. Il s'appelait Richard Swift, il avait 41 ans, il souffrait d'alcoolisme, ça arrive. Il avait de nombreuses cordes à son arc, il était accompagnateur en tournée des Black Keys et des Shins. Il était aussi un brillant réalisateur artistique, il avait collaboré entre autres avec la française Laetitia Sadier de Stereo Lab, et puis plus récemment avec le groupe californien Foxygen. Mais enfin, Richard Swift était avant tout un auteur, compositeur, interprète très éclectique, qui oscillait entre pop baroque et soul. Il y avait chez lui une fragilité à fleur de peau et une instabilité qui pouvait rappeler le New-Yorkais Arthur Russell, qui apportait lui aussi une bizarrerie indescriptible à tous les genres qu'il abordait. Voilà, Richard Swift n'est plus là. C'est triste pour moi d'avoir attendu ça pour vous le faire découvrir. Je vous propose Losing Sleep, c'est un classique extrait de son premier album autoproduit paru en 2005, The Novelist, Richard Swift, ce soir sur France Inter.
It's all right. It's all right. I seem to have misplaced my world, and they're all out of time. So come on now. What you thinking? I wish I could read your mind. I can barely read mine. I'm losing sleep.
Vertigo Trip sur France Inter.
De chanter cette très belle collaboration d'un genre qui est guère fréquent, père et fils. Le père, bah, c'est le musicien néo-zélandais Neil Finn. Beaucoup se rappellent sûrement le groupe Crowded House, qui dont le rock mélodieux à la fois mélancolique et exaltant est un des meilleurs souvenirs de la fin des années 80. Et puis il s'est associé avec son fils Liam, qui vit à Los Angeles. Ils se sont retrouvés à enregistrer ensemble un album, comme ils disent, de lounge sensuel. Voilà, j'ai pas le temps de développer, au grand regret de Stéphane Ronxin, qui est la plus grande autorité sur la question, et donc qui me demande de vous dire que Neil et Liam Finn seront au Café de la Danse fin janvier à Paris. Oui, lui, en tout cas, il y sera. Merci à Stéphane, merci à Loïc Frapsos à la technique et merci à tout le monde. Et voilà, tout de suite après les informations, ce sera le nouveau rendez-vous de Laurent Goumard avec Christine Angot et Jean-Claude Carrière.